Est donné par le garage Balcon du Jura, votre agence Suzuki à Sainte-Croix.
Il est 19h sur Radio Carnaval. Et si vous commencez à manger à l'instant, nous vous souhaitons un joyeux appétit.
Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans l'émission La Vita est Bella. Et avant de commencer cette émission de mercredi, eh bien, on remercie nos sponsors, merci aux partenaires, Laiterie, Fromagerie de Baume et le Daystock Factory Outlet à Orbe. Bonsoir Sylvaine.
Mais bonsoir Sylvain, comment ça va ce soir?
Malgré le temps qui était assez maussade, on est vraiment bien au soleil ici et on va parler vitesse ce soir et sans plus attendre, on a le plaisir ce soir Sylvaine de parler sport mécanique et plus précisément de course automobile sur route et sur circuit. Notre invité a une passion intacte et a à son actif un nombre de courses importants et autant d'anecdotes qui vont avec. Il a notamment participé à toutes les courses Vuitbœuf-Sainte-Croix de 1985 à 1992. Dont il va nous parler. Alors, on a le plaisir de recevoir ce soir M. Mario Messina. Bonsoir, Mario.
Oui, bonsoir à vous.
Comment vas-tu, Mario, en ce début d'année ?
Alors, ça va très bien, merci beaucoup. Là, je ne vous cache pas que c'est une première pour moi. Alors, vous m'excuserez, je suis un petit peu tendu. J'espère que ça va se détendre au cours de route.
Tu verras, Mario, ça va bien se passer. Et puis, comme on dit chaque soir à nos invités, on coupera au montage. Non, mais pas de soucis, je te rassure, tout va bien se passer. Tu m'as dit que tu étais beaucoup plus à l'aise dans un cockpit de voiture que ce soir au bord d'un micro et au devant un micro, mais tu verras, tout va bien se passer. Mario, merci. Pour commencer, d'une part, on partage la même activité professionnelle, on se côtoie comme collègues et c'est vraiment un plaisir de te recevoir pour parler de ta passion et notamment de cette course Vuitbœuf-Sainte-Croix. Mario, tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette passion pour le sport automobile ? Comment est-ce qu'elle est née, cette passion ?
Oui, alors je ne pense pas être un cas rare, c'est que ça m'a été transmis par mon papa. En fait, depuis tout petit, mon papa parlait beaucoup de voitures, faisait de la moto. Alors voilà, au fil du temps, je me suis vraiment imbibé de sa passion. Et là, je dois dire, j'étais vraiment comme une éponge. J'ai vraiment, je pense, tout pris. Et j'aime bien dire, je suis vraiment tombé dedans quand j'étais petit. Quoi.
Avec bonheur.
Alors, moi, j'ai une question qui me plaît énormément. On connaît l'amour des Italiens pour les belles voitures et la course automobile, mais également moto, les circuits de vitesse et les courses télévisées. Autrement dit, est-ce que cet esprit italien, autour de la Vespa, Alfa, Ferrari, etc., c'est aussi un élément qui a contribué à ta passion pour l'automobile ?
Oui, alors je ne veux pas casser un mythe. Mais peut-être pour certains, je dois dire que pour moi, le côté latin, oui, dans le sens que quand je ressens des émotions, elles sont vraiment très latines et à 200 à l'heure. Mais au-delà de, non, je ne pense pas que c'est un critère de lié à l'italianité. C'est plutôt dans leur senti, alors ça je veux bien. Mais c'est vraiment, je pense que ça m'est venu vraiment par passion. Alors les Vespa, tout ça, j'adore ce côté, voilà. Mais non, c'est pas directement par rapport à ma nature ou à mes origines italiennes, je vais dire.
Mais c'est vrai qu'on avait, reçu il y a maintenant, je crois que c'était l'année passée, le Vespa Club de Lausanne, qui fêtait ses 20 ans. Et on sentait vraiment, effectivement, dans leur discours et l'envie de faire partager cette passion de l'Italie, de la liberté de la Vespa, du soleil, des jolies filles. Et j'en passe.
Et c'est vrai que si on analyse un peu, la Vespa, c'est l'Italie. Moi, quand je descendais en vacances, tout petit, en Italie du Sud, c'était les Vespa 50. C'est vrai qu'on rêvait tous d'en avoir une. Non, c'est vrai que Vespa égale Italie.
Et puis, étant originaire, Mario, on en parlait juste avant l'émission, de ton nom qui est originaire de la Sicile. Oui. Donc forcément, de l'amour de l'Italie et puis cette empreinte italienne reste toujours. Et l'empreinte des belles voitures, c'est tout à fait normal. Comment c'est traduit, Mario, là où les premières fois que tu as pu aborder et toucher finalement ce sport automobile, ces voitures, c'était en allant voir des courses, c'était comment ?
Alors, peut-être ma réponse sera un petit peu particulière. Comme la plupart des Italiens de la deuxième génération en Suisse, les vacances, mes parents travaillaient, alors je me retrouvais souvent seul à la maison. Et comme j'avais la passion des voitures, j'avais les petites voitures, enfin, je me suis créé ce monde. Et puis pour moi, ce monde, finalement, c'était le Panthéon, quoi. C'était la course automobile, les pilotes, c'était le domaine des dieux, hein, comme dans Astérix, quelque part. Mais c'était vraiment le domaine des dieux, c'était quelque chose. En fait, ma première approche s'est faite d'une façon, j'ai envie de dire, très romantique, très idéalisée. Hein. Pour moi, les pilotes, c'était des dieux, ou des demi-dieux. Et puis voilà, puis au fil du temps, à force de, comment on dit vraiment, parce que je fais attention à ne pas prendre l'accent vaudois, parce que voilà. Mais à force de bringuer, de bringue et de news et rien. Eh bien, à force de, eh bien, mon papa, un jour, me dit, écoute, Mario, on va aller voir le Grand Prix de Formule 1 à Monza.
Bon. Un circuit mythique.
Mais circuit mythique. Alors, s'il y avait bien un circuit qui a nourri ma fantaisie et puis ma passion, c'était bien Monza. Et voilà qu'en septembre, alors j'ose pas dire l'année, mais je vais quand même la dire, en septembre 1972, eh bien, on a pris le train avec mon papa et mon oncle, Antonio, et puis on est descendu à Monza. Et voilà, je continue ou bien
bien sûr, avec plaisir.
Alors, et voilà, alors on arrive à Monza, alors voilà, alors là, oui, l'esprit italien. Organisation, vous oubliez, passion présente, organisation un peu moins présente, mais ça fait partie du tout. Et puis voilà, puis finalement, j'ai réussi avec mon papa à m'accrocher à un grillage. Je ne vais pas partir, mais c'était la variante Ascari. Enfin bref, c'était une ligne droite, il y avait un gauche, il n'y avait pas la chicane à l'époque, les voitures arrivaient très vite. Et là, j'ai eu mon premier contact avec la réalité. Entre mon monde, j'entends, je vais faire le bruit, hein. J'entends, pop, 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 pop. On aurait dit des détonations. J'ai serré mon père, puis mon père me regarde, ah, bah, je vais t'amener peut-être voir des courses plus souvent, comme ça, t'arrêteras de... Voilà. Et puis finalement, c'est comme ça, mon premier contact a été vraiment, j'ai envie de dire, brutal.
C'était une révélation, carrément.
Ah ouais, ouais, ouais. J'ai reconnu les pilotes, tout, mais c'était violent. Oui, j'étais presque un peu traumatisé. Moi, j'avais 11 ans, hein. Mais c'était quelque chose de fort.
Mais à ce moment-là, ça t'a traversé l'esprit en disant, ça, j'ai envie de faire ça.
Ah ouais.
Mais rêve d'enfant de dire j'aimerais être un jour, les choses ont évolué de manière différente, mais je veux être pilote, je veux faire ça. Ça, c'était vraiment ce jour-là où ça s'est révélé.
Ah, là, ça a été la mise en pratique.
La confirmation, peut-être, que c'était ce que tu voulais.
Voilà, Et j'avais 11 ans, je reconnaissais tous les pilotes, hein, à leur casque et tout. Là, pour la petite histoire, si je peux la raconter, alors on est en 1972. 1997-1998, je me retrouve à Bulle parce que je faisais partie d'un team de course patati patata et je vois un monsieur sur une chaise roulante. Alors pour les jeunes, peut-être qu'ils ne s'en souviennent pas, mais c'était Claire Regazzoni.
Ah ouais, bien sûr.
Je vois Claire Regazzoni à 37 ans. Je le vois, c'est comme si je voyais un dieu. Je dis, mais Claire, puis je parle un peu italien, si, voilà. Et on lit tout de suite, hein, parce qu'il sent le fluide. Et je lui dis, tu te souviens, en 1972, tu es arrivé dans la variante Ascari, tu t'es touché avec Carlos Pache, tu as touché la glissière, ta voiture a pris feu et je t'ai vu camber la glissière. Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, tu es une vraie encyclopédie. Ah, c'est la petite histoire.
Bah, c'est vraiment le côté fou. Passionné. Celui qui n'est pas passionné, il ne sait pas ça.
Ah, c'est un truc de fou. Voilà, c'était, je m'excuse. J'ai peut-être
Avec plaisir, Monza.
On est là pour ça, Mario, avec plaisir.
Quand on parle de voiture de course, on est quasi obligé de passer par la case karting. Est-ce que, effectivement, tu as passé par cette case, toi, Mario?
Oui. Alors, pour moi, 1972, je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais on a des années magiques. Et ma première année, j'en ai eu quelques-unes, mais ma première année magique, c'est 1972. 1972, je suis en vacances, en Italie, en Calabre. Et mon oncle, Antonio, qui était passionné comme moi, me dit, toi, coupe, dis, Mario, il vient dans l'appartement où j'étais avec mes parents. Il me dit, écoute, j'ai un copain, il a un karting, on peut aller tourner sur le circuit. Et il y avait un tout nouveau circuit qui avait été construit. Et voilà que je me retrouve le premier contact avec un karting en Calabre, avec un kart de compétition, j'avais 11 ans. Là aussi, trauma total, hein, ça c'est moi, trauma total. On pousse le kart, ça part, je pars dans tous les sens. Puis après 10 tours, c'était bon, c'était OK.
C'était la folie.
La folie. Fou, quoi.
Une sorte de rêve qui se réalise enfin.
Puis ça s'est fait vraiment d'une façon... le hasard qui n'existe pas, mais c'était un petit peu ça.
Et puis Antonio, alors il a tout de suite compris, j'imagine. Hein. Ton papa aussi, ça a été...
Oui, ils ont compris. Et puis, alors on a passé pas mal de temps durant ces vacances sur ce circuit. Je ne veux pas vous inonder d'anecdotes, mais ce circuit, en fait, avait été construit à la mémoire de mon idole, hein. Il s'appelait Giunti. Giunti, c'est un pilote italien, mais calabrais, de Formule 1, et puis qui malheureusement s'était tué l'année précédente dans une course, parce qu'à l'époque, maintenant aussi, mais à l'époque c'était vraiment dangereux. Et en plus, je roulais pour la première fois sur le circuit de mon idole.
De Giunti, donc.
Giunti, ouais.
Ok.
je parle sous ton contrôle, hein, Mario, mais c'est vrai, quand on voit les grands pilotes d'hier et d'aujourd'hui, le passage du karting, c'était quasiment un passage qui était obligé.
Oui, oui, oui. Alors moi, c'est vrai, je connais toute l'historique, en tout cas les pilotes, mais même les pilotes actuels. Hein, je suis un petit peu moins l'actualité F1, mais la plupart des pilotes, vraiment, j'ai envie de dire 85, 90% sont issus du karting.
Okay. Ouais, c'est le karting, indépendamment de la vitesse, mais c'est surtout quoi ? C'est les trajectoires, le freinage tardif ?
Le karting, j'ai envie de dire, c'est bon, les roues découvertes, c'est sûr. Bon, il n'y a pas de suspension, mais c'est un peu ce contact. J'aime pas trop ce terme parce que c'est pas ma nature, mais c'est ce contact violent avec
brusque
avec la piste, les vibrations, les courses en peloton. Ça va vite. Les roues peuvent c'est ce côté où en fait on développe cet esprit et puis le rythme, cet esprit combatif, le rythme, le contact. Oui, alors sûr, ouais.
Toi, tu vas toujours rouler sur des pistes de karting ou bien
tout ? Ouais, alors je ne fais plus de courses, mais j'ai gardé des pieds un peu partout. Alors là, j'ai deux kartes, effectivement. Et là, j'ai un kart dit à vitesse. C'est très violent parce que c'est des boîtes séquentielles. Ça tombe très vite. Et puis, j'essaye une fois par année de faire une course de championnat. Et là aussi, pour l'anecdote, je me dépêche, hein, parce que je veux pas trop. je cours dans les catégories, pour pas dire oldie, au vu de mon âge canonique. Et en fait, j'étais avec mon fils il y a 3-4 ans en arrière, puis j'étais là, je préparais le kart, puis je dis à mon fils, va voir ce qu'ils font les vieux là-bas. Puis mon fils, regarde, écoute papa, les plus vieux là-bas, ils ont 47, 48 ans. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà, tout ça pour dire que la passion n'a pas d'âge.
Puisqu'on travaille ensemble et qu'on se connaît, on a quand même plusieurs collègues hein, au sein de notre activité professionnelle qui pilotent. Est-ce que toi, tu as également une licence de pilote ? Parce qu'avec ton parcours, ça paraîtrait assez incroyable de ne pas en avoir. Donc, est-ce que tu as une licence de pilote ?
Oui, oui. Alors, pour la petite histoire, le métier qu'on fait, hein, les deux. Pendant mon école, en 1984, j'ai pris un congé spécial pour aller passer ma licence de pilote au Castellet. Donc ma première licence, je l'ai faite pendant l'école de gendarmerie. Quoi. Voilà, 1985. Voilà, première licence. Mais je faisais déjà des courses de kart auparavant. Voilà.
Mario, est-ce que tu as une voiture spécialement préparée pour effectuer du circuit ?
J'ai envie de dire oui et non, parce qu'à l'époque, quand je faisais de la course automobile, c'était vraiment des voitures de course, monoplace et autres. Et puis sinon, je courais dans des catégories, c'était des voitures de tourisme modifiées pour le circuit, mais qui étaient issues de la série. Actuellement, oui, j'ai une voiture que j'ai j'ai préparée, voilà, c'est une Porsche, c'est pas une Porsche dernier cri, mais c'est une Porsche que j'ai préparée au fil du temps, qui est homologuée sur la route, mais déjà, elle fait plaisir à voir parce qu'elle est belle esthétiquement. Et si je veux faire des sorties circuits, gentleman driver, on dira ça comme ça, je fais du circuit avec, comme ça.
Ouais. Tu t'es assagi un peu alors ? Pas sûr,
je crois. Non.
On s'assagit pas.
Ouais, mais alors là, je vais. Comme ça enlèvera tout doute. Vous savez, on parle d'assagir, on pense à la vitesse. Ça n'a rien à voir. Parce que je vais te dire pourquoi je ne me suis pas assagi. Moi, quand je prends un virage, même à 30 à l'heure, j'ai toujours l'idée de la trajectoire de course. J'arrive dans un giratoire, il faut que je le redresse le plus possible. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, mordre un petit peu à gauche, à droite. Donc même à 30 à l'heure, on garde cet esprit trajectoire.
Instinct, technique, etc. Voilà. Qui reste même à la conduite de tous les jours.
Exactement. Sans forcément s'attaquer à la vitesse.
Et puis alors, ta voiture, ta première voiture sportive, c'est quand que tu l'as eue en fait, que tu as pu vraiment l'acquérir ?
Alors, hormis les voitures de tourisme que je préparais, ma première voiture de course, c'était une monoplace, hein, c'était une Formule Ford. Et puis, je l'ai eue, je crois, à 29 ans.
Ok.
Et puis là, c'était des monoplaces, c'est monoplaces sans aileron, hein, Formule Ford, qui finalement ont été une école de pilotage pour une pléiade de pilotes qui sont arrivés en Formule 1. Mais en fait, quand on achète ces voitures, on peut aussi rester dans la catégorie. Donc, c'était courir à bon marché avec des voitures de course.
Quand on parle avec l'expérience que tu as, toutes les courses que tu as faites, et puis notamment sur circuit ou sur route, on parlera tout bientôt, effectivement, de cette course, on peut dire un peu mythique, mais de Villebeuf-Sainte-Croix. Quand on parle course automobile, on ne peut pas passer à côté de la sécurité, des accidents, des améliorations aussi qui ont été effectuées en cadre de sécurité dans les voitures, sur les pistes, les circuits. De ton vécu, quel constat tu fais sur l'amélioration autant dans les voitures que sur les circuits en termes de sécurité ?
Ben écoute, pour moi les IT's c'était hier, hein, mais c'est vrai que si je fais le compte, même si je ne suis pas bon en mathématiques, il y a 40 ans en arrière. On se sentait déjà très protégé à l'époque parce que ce soit en voiture tourisme, on avait les arceaux de sécurité, on avait les harnais. Et puis en monoplace, on était dans des quand même. Mais c'est vrai que j'ai vécu personnellement des accidents graves. Même en Formule Ford, je me suis retrouvé une fois au départ d'une course de championnat suisse en Allemagne, puisque les circuits, il n'y en a pas en Suisse, c'était des courses en peloton, la voiture a décollé, puis elle est tombée juste, elle est partie en l'air, je vois encore le pilote comme dans une fusée, montée comme ça, la voiture se retourne, elle retombe, j'ai pas envie de dire par chance, parce que malheureusement, c'est le camarade qui était à côté de moi, le pilote qui a pris la voiture, et puis, ça l'a tué sur le coup. Il y a eu de l'évolution. Mais à l'époque, par exemple, l'assaut de sécurité, on avait des assauts de sécurité qui arrivaient jusqu'à la moitié de la voiture. C'était comme ça, sinon on devait changer de catégorie. Donc faire un tonneau, ça allait, mais taper contre une glissière, on risquait de se retrouver peut-être avec les jambes sous les genoux.
Ouais, c'est clair, puis l'évolution des voitures, des matériaux, etc.
Maintenant, il y a une belle évolution, le carbone, enfin... plein de choses, tout à fait.
Bien sûr, même si ça reste un sport...
Je donne juste un exemple, parce que ça me revient maintenant à l'esprit. En Suisse, on avait cette spécialité de faire les courses de côte. Mm-hmm. On y reviendra peut-être pour Villebeuf-Sainte-Croix. Puis actuellement, les monoplaces, elles ont ce qu'on appelle vulgairement des tongs. Il y a le cockpit, et puis il y a, vous les voyez, avec une espèce de barre devant, et puis c'est comme un... un arceau.
Une sorte d'arceau, ouais.
Un arceau, voilà. Et puis cet arceau sert à protéger, notamment les voitures sont très très basses. Et souvent en sortie de piste, on pouvait passer sous la glissière et puis se faire très mal au niveau de la tête. Sauf erreur, en 92, 93, je ne me rappelle plus, il n'y avait pas ces protections. Et un pilote que je connaissais, d'ailleurs, on a eu fait des courses, s'est tué dans une course de côte parce qu'il n'avait pas cette protection.
Cette protection-là.
Ouais.
Quand même, hein. Il y a quelques gens qui sont déjà partis, malgré tout.
Bon, oui. Le sport automobile qui reste de toute façon un sport comme bien d'autres, le matériel qui a évolué, la sécurité, qui reste un sport dangereux, beaucoup d'autres.
Si je veux faire juste une comparaison, pour ne pas trop parler de ça, mais actuellement, oui, c'est spectaculaire, ça va très vite, quand ça part. Mais le pilote, voilà. Mais dans les années 70-80, c'était presque dans la mentalité, on disait c'était l'esprit des pilotes de chasse des années 40. On savait qu'il y en avait tant au début de saison. Puis certains allaient manquer à l'appel à la fin de la saison.
Ouais, malheureusement, des comptes, finalement, on prenait en compte le fait que certains ne participeraient pas finalement aux courses suivantes et puis ne seraient plus là.
Ouais.
Mario, on a une pause musicale avec ton premier choix qui est Only You avec Savage, d'accord ?
Ouais.
si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes dans l'émission La Vita è Bella. Et ce soir, on reçoit Mario Messina, un franchement adepte de la course automobile, une vraie passion depuis toujours. Mario, on vient d'écouter un titre, Only You, Savage. Ce titre, il te parle particulièrement ?
Oui, en fait, il me parle parce qu'on est en plein dans les 80s. C'est mes 20 ans. Et puis, bon, ben voilà, à l'époque, on n'avait pas le Bluetooth, tout ça. Et je dois quand même avouer que quand je faisais mes courses de côte, je mettais la musique à fond.
En conduisant à fond la musique.
Ouais, 8-9 sans croix, je mettais la musique à fond. Et puis, souvent, je mettais Only You. J'aimais bien le rythme, j'aimais bien. Mais voilà. Et c'est vrai que ça me fait toujours un petit peu. Ça me fait toujours un peu des frissons parce que ça me ramène à cette époque. J'aurais pu en choisir 15 000 autres, hein, des années 80, mais celle-ci, j'aime bien, c'est un peu ce rythme. Voilà. Ça me rappelle ma course de côte, finalement.
Mais intéressant, parce qu'on aurait pu penser à un rythme qui est beaucoup plus effréné.
Oui, mais tu as parfaitement raison, et je n'arrive pas à me l'expliquer. Plus c'est comme ça, plus j'avais envie d'aller vite. Je sais pas, c'est comme ça. J'ai aucune explication, je ne sais pas pourquoi.
Avant, on parlait sécurité, je crois, Sylvain, que juste avant la petite virgule pub, on parlait karting, et je crois que tu as eu des particularités au niveau des blessures par rapport à des courses en karting. Tu as deux, trois anecdotes à nous raconter.
Oui, alors j'en ai deux, finalement. Enfin, alors, la première, voilà, ça ne me rajeunit pas. En 1974, j'étais sur la piste Ignazio Giunti et puis je tournais avec un kart compète et puis j'arrive dans une courbe et je pensais que le gars, enfin voilà, j'ai juste tourné la tête pour voir où était son avant droite, enfin sa roue avant droite, le temps de tourner la tête et de regarder, de me remettre ma trajectoire, que j'étais déjà sorti de la courbe. Le pied au fond, j'étais toujours à fond. Et puis, je suis parti, en fait, en bas un talus. En bas le talus, ben, il y avait des pneus. Les pneus ont giclé, puis j'ai tapé frontal contre la glissière. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu la configuration d'un karting. J'ai tout de suite senti qu'il s'était passé quelque chose. Hein. Alors, c'est là qu'on se dit, il s'est passé quelque chose.
Il y a un souci.
J'ai tapé, mais je ne savais pas quoi encore. Puis je vais pour sortir, donc je m'appuie avec les bras pour sortir du siège. Et c'est là que je vois que j'avais la jambe gauche qui était complètement... elle était sous le genou, quoi.
Ah ouais, quand même.
Ah, télescopée complètement. Ouais. Et là, je me suis dit, là, Mario... À l'époque, je faisais de l'athlétisme, je faisais du 100. Et là, je me suis dit, Mario, c'est fini, tu ne vas plus faire de 100 mètres. Voilà. Et j'étais sûr qu'on allait... Voilà, qu'on allait m'amputer, quoi. Non, mais c'était assez... Voilà, c'était
bon,
assez...
Bon, t'avais quel âge aussi ?
J'avais 13 ans.
Ouais, donc voilà, à ce moment-là, c'était aussi dans le contexte des 13 ans, quoi.
Ouais.
Bon, c'était la première blessure de guerre.
La première blessure comme il faut. J'en ai eu d'autres après, mais un petit peu moins. Après, une autre anecdote plutôt rigolote. Dans les années 80, quand je faisais du karting avant l'automobile, on tournait sur un circuit à Lisse. C'était l'ancien circuit. Et là, au bout du freinage, je sais pas ce que je fais. Enfin bon, je me tourne les crayons. Je décolle. Et je me rappellerai toujours. Enfin, il y avait un bar qui était juste un petit peu plus loin. Et je vois encore mon kart tomber sur la table du bar. Non mais tomber sur la table et puis en fait je sais pas comment est-ce que j'étais, en fait je me suis retrouvé à quatre pattes là, je marchais à quatre pattes avec le kart sur la tête et puis là je me suis rien fait, mais c'était vraiment cocasse parce que le kart est tombé vraiment sur la table, quoi.
Sautez les gars, sautez
à votre
bonne santé. Voilà. Merci Mario, on va passer une page de pub. Merci Thibaut.
L'entreprise forestière Gander by Wolf vous souhaite un bon appétit. santé.
Le Bar à Vin à Sainte-Croix vous souhaite un bon apéro.
Bière du Boxer, brassée avec passion à Yverdon.
La pause café est offerte par le bi-hebdomadaire régional Le Journal de Sainte-Croix et environ.
L'entreprise Books Charpente vous souhaite un bon début de soirée. L'entreprise forestière Gander by Wolf vous souhaite un bon appétit.
Voilà, voilà, de retour.
Déjà de retour, oui. Magnifique. Bienvenue dans l'émission La Vita è Bella. Mario, on a envie de te poser, bien entendu, avant de commencer vraiment de parler de cette course Vite d'Oeuf Sainte-Croix. Comment se passent les courses, notamment à l'étranger, sur des circuits légendaires, et principalement derrière le volant d'une monoplace, parce que tu as eu une monoplace. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces courses à l'étranger derrière le volant d'une monoplace, c'est quand même pas donné à tout le monde.
Alors, je parle de mon expérience, et je tiens à préciser en toute humilité, j'ai toujours dit que j'étais plus passionné que champion. Il m'est arrivé de faire quelques résultats que j'estimais bons, mais j'ai toujours été un grand passionné. Voilà, je voulais commencer par là. Mais juste pour dire que voilà, pour la Suisse, ça a toujours été un peu compliqué. Parce que comme on ne fait pas partie de je ne sais pas quoi, marché, tout ça, donc il fallait préparer. En tout cas à l'époque, maintenant je ne sais pas, mais juste dans les années 2000, mais peut-être encore maintenant, préparer des papiers pour des douaniers et tout, et tout, et tout, et tout. Donc c'était déjà assez compliqué au niveau administratif pour aller faire des courses. Parce que voilà, les circuits, le championnat suisse de vitesse à l'époque, même maintenant je pense, se fait à l'étranger, on n'a pas de circuit en Suisse. Donc on partait avec la voiture de course, la remorque, et puis on allait France, Allemagne ou comme ça. Mon premier contact avec ma monoplace, la Formule Ford, ça a été Dijon. Un circuit mythique aussi, bien connu. Et mon premier contact, encore une fois, avec une... Rouler vite avec une voiture tourisme, c'est comme une voiture de série qu'on fait rouler sur un circuit. Mais une voiture de course, c'est autre chose. Et là, quand je me suis mis dans la monoplace, le copain commence à m'attacher les ceintures. Déjà, il ne faut pas être trop claustro. C'était vraiment un contact. Parce qu'en fait, j'étais tellement passionné, je l'ai acheté. Je n'ai jamais essayé avant. Donc, monter sur la remorque, on dira. Et puis voilà, alors, déjà, je ne trouvais pas la première. Après, je trouve la première. Je démarre, boum, 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 voilà, tac, tac. Mais c'est venu assez vite. Par contre, alors, la ligne droite, ça paraît simple, une ligne droite. Mais même en ligne droite, au début, je coupais un peu les gaz parce que je me dis, c'est incroyable, ça part dans tous les sens. Voilà, c'était vraiment, il fallait s'adapter à une conduite qui n'a rien à voir avec les voitures actuelles qui ont 300, 400, 500 chevaux. Et avec tout le respect, il y a tellement d'assistance. Parfois, ça pourrait peut-être être dangereux qu'on pense qu'on va maîtriser. Et en fait, la vraie vitesse... Même si elle n'est qu'à 200, 250 ou 260 sur un circuit, eh bien, c'est ça. Alors, c'est vraiment autre chose. Il faut se battre. Quand on dit que c'est un sport assis, oui, c'est un sport assis.
Le vélo aussi.
Bon. Alors, c'est vrai que je pédale pas. Mais c'est quand même beaucoup de tension, beaucoup de voilà, le rythme. Puis, il faut se battre avec le volant.
Au niveau physique, musculature, préparation, ça demande. Quand on voit les pilotes d'aujourd'hui, ils sont très bien préparés.
Oui. Alors ça, on parle des pilotes de Formule 1 qui ramassent des jets latéraux, que ce soit en sport proto ou comme ça. Alors moi, c'est vrai qu'en Formule Ford, même jusqu'en Formule 3, il y avait pas mal de glisse. On travaillait beaucoup avec la glisse. On avait moins de sollicitations à ce niveau-là. Je dirais que la sollicitation, elle était surtout au niveau de la tension. La tension psychique, la tête, la concentration. Moi qui suis un distrait de nature, s'il y a bien un endroit où je suis concentré, c'était là.
C'est peut-être mieux, hein.
J'appelais ça une saine solitude, justement. Je crois que c'était le seul endroit où je me sentais vraiment moi et moi.
Mais c'est vrai qu'on on a effectivement compris, puis on peut s'imaginer que les démarches quand on va courir à l'étranger en fonction des voitures sont compliquées. Et quand on
pour dit,
et tu le relevais, qu'il n'y avait pas de circuit en Suisse, je pense, comme beaucoup, pour toi, c'est un regret qu'il n'y ait pas de circuit en Suisse.
Non, mais c'est vrai. Il faut juste savoir historiquement pourquoi il n'y a pas de circuit en Suisse. En 1955, au Mans, il y a eu un grave accident. Une voiture est partie dans la foule. Il y a eu plus de 80 morts. Et puis, à partir de là, la Suisse a décidé mm-hmm. qui aurait pu, parce qu'en Suisse il y avait aussi Bremgarten, hein, il y avait course de Formule 1, mais après cet accident ils ont interdit et c'est rentré dans la constitution et okay. malgré plusieurs tentatives et autres on n'a jamais réussi à... mais un circuit ça serait bien, même pour tout le monde. On peut rouler sur un circuit, mm-hmm. on peut prendre des cours de pilotage sur un vrai circuit, au niveau sécurité, ça serait une plus-value, voilà, c'est sûr.
Eh bien Mario, je vais laisser Sylvaine entamer la montée Vuitebœuf-Sainte-Croix avec cette première question.
Alors avec plaisir Mario, est-ce que tu peux nous parler de cette course qui est vraiment mythique, hein, et que tu as participé à toutes les courses de Vuitebœuf-Sainte-Croix? C'est quand même, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui peut nous parler de cette fameuse course.
Alors oui, parce qu'il faut savoir que jusqu'en 1984, sauf erreur, on avait la course de côte Fontaine-Villarburquin.
Exactement.
C'est marrant parce que celle-ci, on s'en souvient. Mm-hmm. Et moi, j'allais la voir depuis tout petit. Et puis, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, mais chaque fois que je faisais la côte, je me disais, pourquoi on ne ferait pas une course de côte? Et je ne sais pas comment c'est venu, je crois que c'était l'écurie du Nord à l'époque, enfin voilà, je ne veux pas trop m'avancer sur qui a pensé, mais comme Fontaine-Villarburquin tombait à l'eau, ils ont trouvé 8 bœufs. Alors là, pour moi, ça a été, j'étais heureux. Et voilà, donc ça a commencé comme ça, et puis première course 1985, je dis allez, je m'inscris quoi. Là, donc j'avais ma licence de pilote en voiture tourisme, et puis ma première montée, je l'ai faite avec la Golf GTI, les mythiques Golf GTI. J'en ai eu 5, 30 dégâts total. Il m'en reste. Ouais. Voilà.
J'aime bien parce que Mario, il compte aux dégâts total.
Ouais. Le reste, ça a bien été.
Mais par rapport au départ, Vuitebœuf, Sainte-Croix, c'était comment cette montée?
Alors. Que ce soit en voiture tourisme, ensuite avec des voitures plus puissantes et ensuite avec la formule, c'est quelque chose. Hein. Parce qu'une course de côte, un circuit, c'est un circuit, j'entends. Il y a des échappatoires, c'est quand même prévu, une voie de décélération. Allez, si on finit contre les glissières, on a déjà réduit la vitesse d'un bout. Hein. Mm-hmm. Par contre, une course de côte, j'ai envie de dire, il n'y a pas droit à l'erreur. Et Vuitebœuf-Sainte-Croix, en fait... On a 9 épingles, hein. Donc voilà. Là, ça allait, parce qu'on partait boum, boum, bam, là, gauche, tac, 2, 3, on attaquait la droite. Mais là où le palpitant commence... Alors après, on a la montée, la ligne droite, où on a le château à droite, hein, voilà. Là, ça allait. Là, une fois, j'ai cassé la voiture, mais ça, c'était sous l'appui, enfin bref. Et puis, après, on avait le gauche. Et puis après, le dernier gauche, on avait vraiment cette longue ligne, finalement... une suite d'enfilades où on était à fond. Donc à fond, alors une voiture tourisme, je ne sais pas, mais en tout cas avec une monoplace, on flirtait quand même, allez, entre 180 et 200 km/h quand même. Donc, alors, bon, c'est là, on commençait à avoir vraiment, après la dernière épingle à gauche, là, on commençait à être en apnée. on était. Celui qui me dit qu'il n'était pas en apnée, voilà.
Tu ne le crois pas.
Je ne crois pas. Ou alors, c'est machin. Là, ça allait très très vite. Et à un moment donné, on a le panneau, je ne sais pas s'il est toujours parce qu'on a des travaux, chute de pierre. Puis ce panneau chute de pierre, en fait, on voit que la route part comme ça. Et puis on se dit, tiens, il faut soulager. Et puis, alors, l'instinct de survie, je dis bien l'instinct de survie. Au début, on soulage. Mais finalement, on rentre à fond. C'est plus tard qu'il faut soulager. Mais le fait de se dire, je rentre à fond dans une courbe où je ne vois pas la... Là, je peux vous dire que... Ouais, alors là, on retient...
Quand tu dis on soulage, si je me rappelle de ce qu'on a échangé, c'est qu'on lève le pied parce que la voiture, elle subit des torsions, notamment par rapport aussi à la chaussée, à la vitesse.
Oui, alors bon, déjà là, on soulage avant parce qu'on ne veut pas rentrer... Voilà. Mais après, on se rend compte qu'on peut rentrer à fond et on rentrait à fond. Et là, tu parles de soulager, puis de déplacement de la masse. Eh bien là, une fois, j'ai eu un accident. Avec la formule, j'ai soulagé en appui, donc ça a délesté l'arrière. Et là, j'ai eu vraiment le bol de ma vie. Enfin, je pense, parce qu'en fait, la voiture est partie en tête à queue, la formule. Hein. Alors, billon, rocher. j'ai rien fait, hein. J'avais juste la pédale sur les freins et j'ai rien touché. Mais c'est vrai qu'on a eu d'ailleurs la première course en 1985, Cortet, qui est un pilote Porsche, au haut de la montée, où il y a le droit de Bulet, là, pour monter à Bulet, il rate son freinage, il tape contre un arbre.
Sur la route des Chevreuils, là.
Ouais, mais juste avant, il a partagé la Porsche en deux. Partagé en deux.
Carrément.
Mais on a vraiment eu de la chance. Je crois qu'on n'a jamais eu de blessés graves.
Tu parlais d'un tronçon qui était particulier. Justement, c'était à l'épingle à droite, quand on montait sur Bulet, route des Chevreuils, avec ces courbes qui étaient un peu plus resserrées. C'était un endroit qui était assez particulier, là.
Oui, oui, c'était particulier. Et puis, là aussi, au bout d'un moment, ben, ce qui est bien en course automobile, par rapport à l'âge, c'est que c'est dans la tête. On sait quand on peut passer à fond. C'est juste des fois l'instinct de survie qui vous fait soulager. Si on sait qu'on peut passer, on passe. Après, seulement, voilà, il faut le rythme et la bonne trajectoire. Mais après le chemin des Chevreuils, on avait cette montée, puis après des enfilades. Et là aussi, c'était tendu. Puis après, on avait cette grande ligne droite jusqu'à Bulet. Là, c'était...
Tu m'avais parlé de choix tactique aussi. Hein. Tu m'avais parlé d'un choix d'essence.
Ah ouais. Ouais. Alors ça, je crois que mes potes, j'ai deux, trois potes que je salue d'ailleurs, Stéphane Gendron entre autres, parce qu'on était dans la même catégorie à l'époque. Je crois que je parle de 1989, on avait tous des R5 GT Turbo. Et puis ça allait vite, ça montait vite. Et puis j'étais assez content, je te parle le deuxième ou le troisième temps. Et puis là, je me dis, allez, je vais la jouer spécialiste, je vais vraiment mesurer l'essence, le poids. Puis mon père, qui était quand même un homme pratique, j'aurais dû l'écouter. Il dit, écoute Mario, tu crois pas que tu devrais mettre 2 litres de plus pour ça? Je dis, non, machin. Et puis là, j'aurais pu faire une bonne place. Hein. Et puis voilà, alors je pars, et puis première épingle à gauche, l'essence du réservoir, il n'y en a déjà pas trop, part à droite. Des jauges, la pompe à essence aspire de l'air et à chaque remise de gaz, vous savez, moi j'ai jamais fait de la boxe. Hein. Je sais pas ce que c'est de se prendre un coup de poing vraiment. J'ai eu de la chance, j'en ai pris ailleurs, mais pas dans l'estomac. Mais là, je pense j'étais Rocky qui encaissait les coups de poing dans l'estomac. Chaque sortie de courbe, je mettais les gaz, c'était un coup de poing dans l'estomac.
Tu pouvais t'en vouloir clairement.
Mais
quoi.
Enfin voilà quoi, ça c'était coup de l'essence.
Quand on n'écoute pas son papa. Hein.
J'aurais dû écouter mon père.
Ah, ouais. Mario, est-ce que tu es pour un deuxième choix musical là?
Oui, bien sûr.
Et qu'est-ce que tu as choisi? Let Her Go de Asimov.
Ah ouais, j'aime bien. Ouais.
Ah ouais.
Ouais, c'est cool.
À tout de suite.
Take a deep
Avant de poursuivre dans l'émission La Vita è Bella, la dernière ligne droite avant le drapeau à damier de l'émission. Mario, pourquoi ce titre ?
Eh bien, je parle souvent de scène solitude. Et c'est vrai que quand on a un casque sur la tête, quand on est cinglé dans son habitacle, c'est un paradoxe, une fois de plus, entre la violence quand même du sport dans l'enchaînement, les freinages, les dépassements, et cette espèce de détachement en même temps qui fait que voilà, ça me fait une combinaison qui me donne un cocktail où je me sens vraiment dans cette saine solitude.
Morceau très sympa que je ne connaissais pas d'ailleurs.
Moi non plus, mais j'ai beaucoup apprécié.
Belle découverte, sympa.
Absolument. Mario, en fait, cette fameuse course Wittbœuf, ça me croit. Est-ce que tu as des regrets sur le fait qu'elle n'existe plus ?
Ah oui. Oui, parce que le sport automobile en Suisse a énormément d'adeptes. Et puis, c'est des jeunes, des moins jeunes, des vieux, des anciens, mais qui sont vraiment dans leur monde et passionnés par ce sport, qui est un paradoxe, parce qu'on pourrait penser que c'est un sport polluant, violent et autres, mais en fait, finalement, c'est jamais là-bas que vous allez voir des émeutes ou sur un circuit des services d'ordre ou quoi que ce soit. C'est vraiment un monde de passionnés. Et juste pour faire la comparaison, que ce soit Wittbœuf, Sainte-Croix, il y a des jeunes qui passent tout leur hiver à préparer leur voiture avec leur petite musique à eux. C'est pour ça que je pense aussi. Hein. Et ils préparent leurs petits bijoux, ils se voient à la place de Senna, ils se voient, ils déchirent. C'est beau tout ça. Et c'est dommage. C'est dommage de brimer tout ça pour un week-end. C'est dommage.
Bon, par contre, avec les travaux, avec tout ce qui se passe, alors ça, ce serait à remettre en question. Mais il y a beaucoup, il y a quand même eu pas mal de changements au niveau de la configuration de la côte.
Oui.
Donc, est-ce que ça perdrait ou est-ce que ça augmenterait, d'après toi hein,
Alors, d'après moi, le premier réflexe que j'ai eu, c'est « Ah bah tiens, on peut aller plus vite ». C'est vrai, parce qu'apparemment, ils élargissent, ils redressent un petit peu, on peut aller plus vite. Donc, ce que je veux dire, les courbes en épingle, il me semble qu'elles ne changent pas trop. Les enfilades, on va y rentrer plus vite, donc toute proportion gardée, le risque va être plus ou moins le même. Et puis, je ne me rappelle plus si à l'entrée des rochers, là, je crois qu'ils ne vont pas faire trop de... Non, je pense qu'on pourrait aller... Ouais, non, ça, c'est toujours un beau parcours, c'est un beau tracé, ouais.
Et je rebondis, Mario, sur le fait de ce que tu disais juste avant. C'est vrai qu'en Suisse, notamment en Suisse romande, puisqu'on le connaît un peu mieux, on a plusieurs courses, hein, slalom, des rétros, des rallyes. Et malgré les difficultés d'organiser des courses hein, de sport mécanique, en raison de la pollution, comme tu le soulignais avant, par opposition au domaine électrique, à la pollution du bruit, de la lumière, la fermeture des chaussées, des contraintes qui sont... quelquefois, et bien entendu, non négligeable pour les usagers et les habitants. Qu'aurais-tu envie de dire aux opposants à ces événements mécaniques sur la route ? Parce qu'il y en a quand même, j'ai envie de dire, de moins en moins.
Malheureusement, je pense que je fais partie d'une voix qu'on n'écoute plus, ou bien d'une minorité, mais peut-être une majorité silencieuse. C'est que finalement, moi je me rappelle, le championnat suisse de vitesse, c'était 5 courses circuits, 5 courses de côte. Je ne sais pas maintenant, mais voilà, on n'aura jamais 25 courses de côte dans une saison l'été. Donc, 4, 5 ou 6 courses de côte, mon Dieu, un week-end fermé que t'en vois des fois. Voilà, moi, les autres sports, je les respecte. Donc, c'est pas ça qui ferait la grande différence. Après, que t'en vois ces slaloms qui sont faits aussi sur ces places, comme à Bière, comme à Chasse-Dôme,
bien sûr.
Oui. Hein, je m'excuse, c'est vraiment une équipe de passionnés. Ils sont dans leur coin, ils sont dans ces casernes, ils tournent, ils embêtent personne. Et puis, franchement, la pollution, il faut aller la chercher ailleurs, des fois. Parce que c'est pas 99 passionnés qui vont polluer la planète.
Ça, je suis bien d'accord. Et Mario, voilà, si on parle de voitures électriques, es-tu séduit et penses-tu peut-être essayer ce concept malgré qu'il soit dénué du plaisir pour les oreilles d'une mélodie que laisse échapper les beaux moteurs ?
Écoutez, là je vais vous renvoyer à ce que vous m'avez demandé tout à l'heure au début, l'esprit italien. Alors, l'esprit italien, c'est la passion et c'est pas du bruit, hein, c'est une mélodie. Moi, à chaque fois qu'on dit que c'est un bruit, c'est une mélodie. Moi, que je vois passer ces frigos à roulettes, on dirait des insectes. Bon, après, non, mais il faut respecter. Hein, j'entends. Oui. Bien sûr que quand on est dedans, ça va vite. Mais s'il n'y a pas la mélodie, non. quand on descend les vitesses, non, c'est autre chose. Hein. Non, c'est irremplaçable.
Ouais, quand on a préparé cette émission aussi, j'ai bien compris que le bruit des beaux moteurs,
la
cette
mélodie,
c'est juste magnifique, on est d'accord. Donc ça veut dire que, à quelque part, même la conduite conjuguée à la vitesse, ça ne serait pas vraiment l'attractivité ou la motivation principale de ce que tu recherches. Donc ça veut dire, comme pilote, sans bruit de moteur, ça veut dire au volant d'une pile, alors tu parlais d'un frigo, ça pourrait clairement pas le faire.
Mais tu vois, je suis tellement plongé là, je me suis même pas posé la question parce qu'elle me ferait peur, la question. Elle me ferait peur. Parce que finalement, je crois que j'ai besoin de la mélodie qui va avec.
Donc là, les formules comme Buemi et d'autres qui a été... c'est quelque chose qui t'intéresse pas plus que ça?
Non.
Tu regardes de temps en temps ou bien pas?
Non. Mais grand respect pour ces pilotes. Parce qu'ils vont vite. Je pense qu'une pile, si elle explose, elle doit faire du dégât. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Non, mais moi, j'ai besoin de... Vous savez, les spaghettis essorés à l'eau, il faut de la sauce, il faut la bolognaise.
Là, on connaît bien l'italien.
Ben voilà, ça va avec. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. voilà.
C'est beau.
Si, avant encore une petite question, Sylvain, allez.
Moi, je dirais que oui, quand même.
Moi,
oui.
On avait vraiment envie de te poser la question. En tant que pilote amateur, c'est quoi, Mario, ton rêve de pilote en termes de conduite? Si tu avais la voiture de tes rêves à piloter, sur quel circuit tu la piloterais? Et puis, c'était quoi le côté mythique? Si tu avais le choix de choisir une voiture, de te faire plaisir sur un tour de circuit, ça serait quoi?
Alors, déjà, le circuit, ça serait Monza. Alors j'ai roulé aussi à Monza, mais ça serait
Monza. Déjà fait, ouais.
Oui, ça serait Monza. Et puis monter sur une voiture de course, une Formule 1, mais à titre personnel, mais pas une Formule 1 actuelle. Une Formule 1, je dirais, des 90s encore, des années 90. Ah ouais, qu'on me la mette, voilà. Déjà rien que ça, c'est bon quoi. C'est bon, je peux retourner au vestiaire. C'est bon.
Allez, la petite goutte.
Ouais.
Et t'as l'impression que ça, ce serait faisable?
Oui.
Ok. Donc c'est un rêve, mais.
Mais ça,
il n'est pas si lointain en fait.
C'est quelque chose que je vais sûrement faire un jour.
Comme tu seras tout bientôt un jeune retraité, une ambition que tu as envie de. Enfin, un rêve que tu as envie de réaliser.
C'est vrai que j'ai parlé de 1972, j'avais 11 ans, donc le calcul est vite.
Voilà,
Donc, c'est quelque chose.
Comment la question? C'est un objectif que tu as envie de réaliser prochainement?
Un objectif, on peut le dire comme ça, mais c'est quelque chose qui est défini dans l'espace-temps et qui va se faire.
Chapeau. En tout cas, Mario, c'était vraiment un super plaisir de pouvoir échanger avec toi sur cette course Villeneuve-Sainte-Croix. Et puis, on sent, comme les autres invités qu'on a eus, mais ce soir, on sent vraiment aussi cette belle passion.
Alors, moi, j'aimerais quand même bien. J'ai apprécié la mélodie de que tu t'imagines que tu arrives. J'ai bien aimé ce que tu as fait comme bruitage. Donc, j'aimerais bien l'entendre une fois parce qu'on s'y croirait, en fait.
Je ne sais pas.
Oui, quand tu arrives à Monza, on te met juste devant.
Il y a le petit moteur. Non, mais c'est
ça ne s'invente pas. Hein.
C'est un truc de fou. On l'a au fond de nous.
Ouais, ça ira avec les spaghettis. Hein, absolument.
Allez, Mario, en tout cas, on te remercie infiniment pour le partage et puis ce moment de passion et d'échange sur la course Villeneuve-Sainte-Croix. On te souhaite une excellente rentrée chez toi et au plaisir de te revoir ici ou ailleurs. Et avant de nous quitter, on remercie nos sponsors, la laiterie Fromagerie de Baume, le Daystock Factory Outlet à Orbe. Et puis, on remercie Thibaut pour le côté technique de cette émission. Et on laisse Fanchon et Stan pour leur émission. Et on leur souhaite une très, très belle émission. Et on finit avec The Sound of Silence.
Exactement. À demain.
Une chanson choisie par notre invité.
À demain. Bonne soirée sur les ondes de Radio Carnaval. Merci Mario.
Merci. Alone, narrow streets of cobblestone.
'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stunned by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe burn in the sound of silence.